Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, c'est le 43e épisode. Je suis allée voir sur la page iTunes de Moodstep. Et puis j'en ai profité pour faire un petit tour sur l'onglet Notes et avis. Et il y a un nouveau commentaire. Donc je me fais une joie de le partager avec vous. Il vient de Caro287. Heureuse de retrouver ces magnifiques moments. Merci beaucoup Johanna pour ses partages généreux, ses découvertes ou ses rappels. Je savoure et partage à mon tour. Vive la transmission. Merci Caro287. Ça fait du bien de lire des commentaires. Il y en a peu sur la page iTunes, donc quand il y en a, eh ben je me fais une fête. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. Et ce qui est étonnant, c'est que même en parlant d'innovation, on en revient à la relation. Notre invité est Jean-Christophe Messina. Et nous allons retrouver tout de suite. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Nous allons parler aujourd'hui d'innovation. Et notamment, c'est en parallèle avec le lancement, alors je le fais rarement sur le podcast, mais sur le lancement de votre livre que vous avez, dont vous êtes co-auteur, L'art de l'innovation. Mais avant que nous nous lancions dans le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Écoutez, je suis fondateur en fait du cabinet Odalom et en fait, c'est pour me présenter, vous dire que pendant plus de 15 ans, j'ai accompagné à la fois les collectivités territoriales, les territoires, à essayer de, à la fois de mieux, de faire en sorte que chacune des équipes puisse accompagner les projets. Et mon rôle, c'est d'être celui qui simplifie la complexité, en fait, pour accompagner la transformation des organisations et des territoires. Et puis le cabinet Odalom a pour ADN la mise en mouvement de l'intelligence collective. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on a eu envie d'aller dans l'écriture de ce livre.
Alors, en fait, on n'a pas mis de titre à ce podcast particulier et j'ai choisi d'aller sur l'art de l'innovation parce que le sous-titre, je ne sais pas si c'est dans votre sous-titre, mais le sous-titre du livre, c'est 19 habitudes créatives, il y a 24 principes et 18 jeux d'innovation. Et je me dis que là-dedans, on va trouver notre bonheur, c'est sûr. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'innovation ? Parce que l'innovation, on entend ce mot partout, mais qu'est-ce qu'on entend par innovation ?
Ben pour nous, innover, c'est disrupter, hein, c'est repousser les frontières, c'est oser l'aventure, oser l'inconnu, c'est prendre des risques, c'est aller vers les autres, vers où les autres ne vont pas. Et pour moi, ce qui est surtout intéressant dans l'innovation, c'est le passage entre la créativité et l'innovation. Car en fait, devient innovation un élément, une idée qui à un moment fait résonance avec un corpus social, psychologique, à un instant T, dans une société.
Mmh. Quels sont les enjeux aujourd'hui de comprendre l'innovation, d'être innovant ?
Ben aujourd'hui, dans l'univers de plus en plus complexe, hein, parce qu'on considère que la complexité est permanente, on la retrouve à la fois dans les organisations, on la retrouve dans le quotidien, tout le monde parle de complexité, tout le monde essaie de se simplexifier la vie, qui est en fait ce jargon, hein, qui est à la fois comment apporter de la simplicité à la complexité, ben c'est avant tout comment on peut avoir une posture d'innovation. Aujourd'hui, l'innovation est un des saluts, en tout cas cette posture d'innovation est un des saluts à la complexité du monde, pour pouvoir bien vivre les choses et les voir plutôt comme une opportunité et non pas comme une contrainte permanente. Donc pour moi, être un innovateur, c'est faire en sorte d'aborder le quotidien avec cet enthousiasme, cette capacité d'ouvrir les chemins de traverse pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir repousser les limites.
J'ai dans mon esprit apparaît aussi donc ouvrir les chemins de traverse apparaissent ces gens qui ont innové trop tôt. Comment on sait, c'est-à-dire que vous dites que l'innovation c'est la rencontre aussi avec le public, mais se lancer sur ce chemin qui est en dehors de nos zones de confort, où est la limite ? Comment on sait jusqu'où on peut aller dans l'innovation ?
Après, moi, je considère c'est qu'à la fois le public, c'est-à-dire lorsqu'il y a la rencontre, si le public est là, on se rend compte que les choses sont intéressantes et qu'elles répondent à un vrai besoin. En fait, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est que on innove pour répondre à un besoin, à une contrainte. Quand les chercheurs en permanence sont dans l'innovation, c'est pour répondre à une recherche, par exemple, d'un nouveau vaccin. Donc, à un moment, l'innovation répond toujours à un besoin. Ce qui est intéressant, et que si elle répond à un besoin, elle trouvera son public. À un moment, on s'est rendu compte qu'en 1999, lorsqu'il y avait eu le chien robot qui avait été lancé par Sony, il n'y avait pas eu de résultat parce qu'en fait, il n'avait pas trouvé son public. Alors, quelle que soit, on va dire, la qualité des chercheurs, quel que soit le projet intéressant, il n'y avait pas eu de rencontre. Et ça, on peut le citer pour d'autres projets à un moment où on se rend compte qu'ils n'ont pas trouvé leur public.
Voilà. Oui, donc il y a un risque quand même dans l'innovation.
Il ne peut pas y avoir d'innovation sans risque. Hein. C'est quasiment l'ADN de l'innovateur, c'est cette prise de risque permanente. C'est comme si à un moment, on accepte d'enlever le petit fil qui nous retient quotidiennement de notre zone de confort pour aller vers cet inconnu, et à partir de cet inconnu, à un moment... ouvrir la porte qui nous permet à un moment de rencontrer, j'allais dire, son public et aller au cœur de l'innovation et au cœur de la réussite de son projet.
Quand on a discuté ensemble, vous m'avez dit l'art de l'innovation, le titre du livre, vous auriez pu aussi l'appeler l'art de la relation. Quelle est justement la relation entre l'innovation et la relation ?
Oui, parce que on considère, et là souvent pour nous c'est notre parti pris avec Cyril de Souza Cardozo avec qui j'ai écrit ce livre, c'est se dire que dans un processus de créativité et d'innovation, souvent on pense au génie créateur ou à la personne qui seule va avoir son idée et d'un coup elle va éclore. Alors que nous, dans l'ensemble de nos recherches, dans nos expériences que l'on fait au quotidien sur les territoires, on se rend compte que les grandes innovations, et en tout cas ce qui porte et ce qui permet de nourrir l'histoire de l'humanité de l'innovation, c'est qu'à un moment, c'est des mises en connexion avec en tout cas d'autres personnes, avec des équipes, et c'est la relation. Et c'est pour ça que ce sont les 24 principes qu'on énonce en fait dans ce livre qui illustrent en quoi cette relation est si importante pour créer de la valeur ajoutée et pour permettre à des équipes d'être innovantes et de dépasser les limites et les frontières du raisonnable. Pour être un innovateur, il faut être irraisonnable. Voilà, insatiable.
Mais donc, ça veut dire que quand vous intervenez dans des entreprises... Il y a la matière brute, on va dire, de l'innovation, travailler sur des innovations. Comment vous travaillez la relation ?
Par rapport au parti pris qu'on considère, ce qui est intéressant, c'est cette fameuse intelligence collective, c'est-à-dire comment on arrive ensemble à pouvoir faire travailler les personnes pour faire émerger des solutions différentes, disruptives, et surtout s'autoriser l'impossible. Et à partir de là, comment faire en sorte que les équipes, en mode projet, on appelle ça nos commandos de l'innovation, parce qu'on considère que c'est ces petites équipes qui sont auto-organisées, qui vont elles-mêmes produire les clés à la fois les clés de la réussite d'une innovation.
Et est-ce qu'on pourrait survoler, donc vous avez évoqué qu'il y avait 24 principes.
Oui.
Voilà, est-ce que comment on pourrait avoir un goût de quels sont ces principes ? Est-ce qu'il y a des grands agrégats ou ils sont chacun autonomes ? Qui sont-ils, ces 24 principes ?
Dans ce livre qu'on a voulu, l'art d'innovation, on a voulu raconter 21 petites et grandes histoires de la grande aventure de l'innovation. Notre objectif était vraiment de travailler sur la mise en lumière des processus de créativité et d'innovation pour montrer qu'en fait, ce sont des équations humaines et que l'histoire de l'innovation est avant tout une histoire d'équipe et de collectif mis en relation. Pour nous, chacun des principes sont des principes à la fois autonomes, mais qui ne donnent la puissance que lorsqu'ils se sont cumulés, conjugués entre eux. À travers ces 23 principes, nous avons mis en lumière, à travers ces histoires, nous avons mis en lumière 23 principes qui sont surtout pour nous, ça qui a été important, le fruit de nos expériences respectives et de ce qu'on expérimente chaque jour dans l'accompagnement d'équipes au sein d'organisations publiques et privées sur l'ensemble du territoire français.
Vous auriez, on pourrait en prendre un comme ça pour avoir une sensation de ce que c'est.
Je peux peut-être vous en dire quelques-uns et puis après je peux faire un ou deux. Hein. Donc par exemple, dans les principes, on a le principe de créativité mécanique. En fait, parce qu'on part sur cette logique, avant tout, l'innovation, c'est un jeu de Lego. Donc ça, c'est vraiment notre fil rouge, que l'innovation est un jeu de Lego. Donc dans ces jeux de Lego, on a comme le principe de la créativité mécanique, le principe de résonance, le principe d'économie du temps, le principe d'habitude créative, le principe de rétrospective, le principe de communication, le principe de ritualisation, le principe essai-erreur-apprentissage, le principe de la diversité, le principe d'auto-organisation, le principe d'inspiration, le principe du management sensoriel aussi, le principe du courage, le principe d'ouverture, le principe d'excellence, de simplicité, de leadership, et j'en passe.
Et comment utilise-t-on ces principes ?
Ce qui est surtout important pour les équipes, ce n'est pas d'avoir la sémantique ou d'avoir le contenu, c'est comment on peut les expérimenter dans le quotidien, dans les problématiques que relèvent aujourd'hui les équipes. C'est pour ça qu'on a souhaité associer à ces principes des habitudes et des jeux d'innovation.
Alors, des habitudes, comme quelles habitudes ?
Par exemple, comme oser avoir en permanence un carnet à idées. Apprendre aussi à formuler les questions d'une manière disruptive.
Ça, c'est quoi formuler les questions de manière disruptive ?
C'est-à-dire
comment on formule ? Parce que je vais m'y mettre, hein. Dès que vous m'aurez expliqué, je vous ferai des questions disruptives. Méfiez-vous.
C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers les chemins sur lesquels on n'a pas l'habitude de se poser les questions et d'aller plutôt sur des questions les plus absurdes possibles. Donc, à travers des mots qu'on peut tirer au sort, qu'on a systématiquement, dès que vous avez des mots qui arrivent comme ça, vous les mettez sur un petit carnet, vous avez une idée, et puis vous vous posez une question en prenant au tirage au sort un mot. Et à partir de là, vous allez avoir quelque chose de plus qui peut émerger. C'est-à-dire qu'en fait,
oui, vous mettez une contrainte pour nous obliger à prendre un autre chemin que notre chemin de pensée habituel.
Exactement. C'est-à-dire qu'on considère que la contrainte est une des sources premières du processus de créativité et d'innovation. Sinon, dans notre chemin neurologique, on va systématiquement vers la même réponse parce que nous sommes conditionnés comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les logiques d'intelligence collective, c'est exactement le même processus. Hein. Je vous parlais de la notion de diversité. Il y a une équipe dernièrement de chercheurs du Massachusetts, du MIT, qui a identifié quels sont les trois facteurs clés qui permettent d'optimiser en fait l'intelligence collective. C'est premièrement, quelle est la sensibilité sociale, c'est-à-dire la capacité de chaque membre du groupe à apprécier l'état émotionnel des autres. Ensuite, ils évoquent quelle est la répartition équitable du temps de parole, la répartition équitable du temps de parole de chacun dans le groupe. Donc là, c'est important que chacun puisse avoir sa place dans l'échange. Et le troisième point, ce qui est intéressant, c'est la puissance et la présence de femmes au sein de chaque équipe en raison de leur sensibilité sociale supérieure à celle des hommes. Donc en fait, on dit que ce qui est intéressant, c'est que le niveau intellectuel de chacun des membres du DPIC a peu d'impact sur son efficacité collective et que l'ingrédient fondamental du succès, c'est son intelligence émotionnelle. Et c'est un parti pris que nous défendons dans notre livre.
C'est drôle parce que j'avais une intervention cette semaine avec essentiellement des hommes ingénieurs et je me suis permise de dire que, oh là là, avec des femmes, ce serait plus facile. Et en fait, ça s'est très bien passé avec ces hommes. Et donc, c'est vrai. Moi, je blaguais, mais en fait, c'est vrai. Le MIT l'a dit,
une étude très sérieuse. Et pour nous, le principe de diversité est un des principes essentiels. Donc, dans le processus de créativité et d'innovation, et donc on raconte dans notre livre en fait des histoires et en quoi le principe de diversité qui réunit des individus, des expériences et aux profils extrêmement variés permet de développer la créativité. Donc, à travers ce principe de diversité, on a un jeu d'innovation qu'on appelle Disrupter votre vie. Je peux vous donner un exemple.
Hein, ouais, par exemple, ce serait bien, oui.
Disrupter votre vie, c'est en fait, vous prenez une feuille, vous la divisez en deux colonnes, et dans la colonne de droite, vous notez quelles sont vos habitudes sur une journée ou mieux sur une semaine. Par exemple, à quelle heure vous vous levez, que vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, quelles sont vos habitudes matinales, quelle route vous prenez pour aller au travail, au bureau, que mangez-vous, où dînez-vous, que faites-vous le samedi, le dimanche, et vous le faites sur une semaine. Et dans la colonne de gauche, face à chaque habitude, en fait, imaginez comment la remplacer par quelque chose d'inédit pour vous, et imaginez le déroulement d'une journée ou d'une semaine totalement en rupture avec vos habitudes. Puis décider de vivre réellement la différence et cette disruption, en fait, incarnée. Et une fois que vous avez au moins vécu cette journée ou si c'est une semaine, prenez le temps de noter dans votre carnet ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu et quelles sont les choses nouvelles que vous avez découvertes, que vous n'auriez pas découvertes si vous ne serez pas allé sur ce chemin. Donc, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est pour changer nos habitudes, c'est avant tout s'ouvrir à cette nouveauté, sortir de sa zone de confort, et aller vers de nouvelles idées, de nouvelles formes, de nouveaux objets, de nouvelles couleurs, de nouvelles odeurs, de nouvelles impressions, pour en permanence enrichir en fait, cette notion de carnet à idées, par exemple. Et en habitude, par exemple, on a aussi en habitude, dans la même logique, par rapport à ce principe de diversité, c'est, on appelle ça « faire de l'étrange un familier ». C'est dans une logique comment rendre romantique le monde, c'est nous faire prendre conscience de sa magie, de son mystère et de sa merveille. Pour nous, c'est éduquer le sens pour voir l'ordinaire comme extraordinaire, le familier comme étrange, le mondain comme sacré et le fini comme infini. Et on donne en fait toute une partie d'habitude pour qu'on s'ouvre à de nouveaux champs, en fait, à nouveaux arts, de nouvelles musiques, et ne serait-ce que des fois. Par exemple, des fois, ne serait-ce que le matin, accepter d'aller sur une musique aléatoire dans la voiture, dans la musique qu'on écoute dans sa voiture, ou même des fois ne pas prendre le même circuit ou le même chemin quotidiennement pour aller chez soi et peut-être découvrir un moment un autre parcours et découvrir un nouvel environnement. Ce qui est important, c'est qu'on considère que c'est éveiller l'enfant créatif qui est en vous et celui qui a cette curiosité et qui, en fait, va aller vers l'inconnu, parce que pour pouvoir aller dans le monde de l'innovation, c'est aussi il est relié au monde de l'inconnu, donc avec cette part de risque évidemment, et aussi cette part de courage, parce que pour pouvoir aller dans ce chemin, il faut aussi avoir cette notion de courage et avoir du cœur.
Mais c'est quand même étonnant qu'on ait à réapprendre ça. Qu'est-ce qui fait, en fait, on cherche le confort et après on s'y encastre, je sais pas comment dire, mais c'est étrange quand même qu'on ait à réapprendre la curiosité, l'aventure.
En fait, dans les sociétés où la complexité est si importante, pour les contraintes aussi sont lourdes et que la vie semble aussi et de plus en plus difficile pour certains, à la fois avec une précarité, des peurs qui sont multiples par rapport à sa place et à sa capacité à être à la hauteur, on va chercher systématiquement, et tout ça s'explique en fait, à reproduire ce qui fonctionne et à multiplier en fait ce qui fonctionne et ne surtout pas oser la différence et vivre de nouvelles expériences, parce qu'il y a un côté très sécuritaire, parce que tout le monde parle de plus en plus de sécurité, tout le monde parle de plus en plus de principes de précaution, on va de plus en plus vers la notion de non-prise de risque, et en même temps, de l'autre côté, c'est l'injonction un peu paradoxale, c'est soyez créatifs, soyez disruptifs. Donc c'est quand même pas évident aussi pour les équipes qu'on accompagne souvent de trouver leur place et d'aller jusqu'au bout des démarches, parce qu'il faut aussi une volonté très forte au niveau de direction générale, d'engager l'ensemble des équipes dans un processus de transformation de leur organisation et de disrupter des modèles. Voilà.
Parce que quand vous allez en entreprise, ok, vous avez le management qui est engagé dans cette voie-là, faut-il encore que quand vous arrivez dans les équipes, ça ne freine pas des cas de fer? C'est-à-dire que comment c'est accueilli et est-ce que vous avez des expériences où justement de sortir de sa zone de confort est quelque chose de compliqué ou vous avez des méthodes qui nous permettent de nous ouvrir à ça?
Depuis 3 ans qu'on accompagne les équipes, moi je suis à chaque fois agréablement surpris de voir la capacité des équipes à se mettre en émergence de production d'intelligence collective. Systématiquement les équipes n'attendent que ça. On sent que pour eux, c'est une vraie... pour certains, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Mais surtout, ce qui est important pour nous, parce qu'il y a aussi un engagement et un contrat de confiance qu'on prend avec les équipes, c'est surtout que concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on ne souhaite pas nous-mêmes être instrumentalisés aujourd'hui par quiconque. Ce qui est important pour nous, c'est de dire « Ok, on produit cette intelligence collective et maintenant, c'est aussi la responsabilité, donc c'est aussi la responsabilité de la direction de voir comment elle va s'engager et s'impliquer concrètement en action pour montrer que la démarche, en tout cas, va aboutir ou qu'elle va donner des signaux forts d'engagement. »
Vous ressortez avec des choses très concrètes. Est-ce que vous ressortez avec des projets, des produits quand vous intervenez avec ces groupes ?
En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ressort toujours avec des plans d'action, avec des mesures D'accord. à prendre et avec qui fait quoi, avec une conduite de projet et nous, comment après on accompagne cette incarnation et ce changement. Parce que quelle que soit l'ambition du changement, il commence toujours par un petit pas. Et pour nous, c'est comment on va connecter ces petits pas pour pouvoir après créer une force, une dynamique émergente de transformation et d'innovation qui va permettre après à apporter la transformation d'une organisation.
Je suis gourmande, hein. Est-ce que vous auriez un autre jeu d'innovation à nous présenter ? Moi, j'aime beaucoup jouer, c'est pour ça. Alors, dès qu'il y a des jeux...
Par exemple, en jeu d'innovation, on en a un qui s'appelle « Écris ce qui t'a le plus dérangé ». En fait, c'est comment développer son excellence relationnelle au sein d'une équipe. C'est être capable pour nous d'y libérer la parole régulièrement, surtout lors de rétrospectives. Donc l'objectif pour nous, c'est d'identifier des actions concrètes qui vont favoriser à la fois le sourire, la bonne humeur de chacun au sein d'un collectif. Donc c'est un jeu qu'on anime uniquement de manière orale. Ces temps peuvent favoriser ceux qui sont à l'aise avec la prise de parole ou conduire une dynamique d'équipe, et en même temps, ça permet à d'autres aussi d'avoir leur place, donc de libérer la parole. Donc autour d'une table, chaque membre est invité à inscrire sur une feuille de manière individuelle et dans le silence ce qu'il a le plus dérangé récemment dans le fonctionnement, l'organisation et les relations au sein de l'équipe. Donc chaque personne présente ce qu'il a dérangé le plus sous la forme d'une problématique, permettant de s'orienter surtout vers des solutions. Et une fois que tous les participants ont noté leurs problématiques, celles-ci sont partagées à seule fin d'éviter d'éventuels doublons, bien sûr. Chaque participant passe ensuite la feuille à son voisin. De gauche, la feuille va s'inscrire. Et puis, chaque participant qui reçoit la feuille va chercher à leur identifier quelles sont des actions concrètes permettant de répondre à la problématique de son collègue qui est exposé juste avant. Et les actions identifiées sont directement inscrites sur la feuille. Donc il y a une circulation successive et les participants finissent par retrouver après un tour la feuille sur laquelle ils ont inscrit leur
feuille.
Enrichie des propositions d'action faites par les autres membres de l'équipe. Il y a une sorte de co-développement et comment faire en sorte ensemble de s'améliorer. C'est une rétrospective collective et bienveillante de l'ensemble du groupe. Parce que chacun retient après une ou plusieurs propositions pour la résolution de son propre problème qu'il a ressenti ou ce qu'il a dérangé dans l'équipe. Et si l'équipe après les valide, toute l'équipe va s'engager alors à suivre et à mettre en place d'ici la prochaine rétrospective ce qui aura été écrit.
Bon, moi, je suis paranoïaque, donc je vais poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, en exprimant ce qui nous dérange, que ça puisse enflammer peut-être un conflit larvé ou des choses comme ça ?
On considère que lorsqu'on est dans une équipe, surtout lorsqu'on est dans des processus de créativité et d'innovation, s'il y a un conflit larvé, de toute façon, le conflit sortira tôt ou tard. Donc, ce qui est important, c'est surtout de traiter les choses. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que l'équipe puisse avoir cette qualité relationnelle. C'est pour ça qu'il y a un de nos principes qui s'appelle le principe d'excellence relationnelle, parce qu'on considère que avant que l'équipe... c'est comme si demain, vous voulez aller au bout du monde dans la forêt vierge et vous dites... je ne connais pas trop la personne, on s'en va et on ne sait pas ce qui se passe. Il vaut mieux quand même, avant de partir, prendre au moins les précautions d'usage, de savoir si chacun est à sa place et tout le long du chemin, bien s'assurer que chacun puisse trouver sa dynamique et sa place dans l'équipe. Parce que qui dit un conflit ne veut pas dire obligatoirement un problème. Ça veut dire une difficulté à régler, certes, mais ça demande aussi du courage. Et comme le courage fait partie d'un des principes, donc c'est important qu'on le mette en exergue pour traiter cette problématique qu'il peut y avoir dans une équipe. Voilà.
On arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je m'attendais pas qu'en parlant d'innovation, on en revienne. Et j'ai l'impression que tous les sujets reviennent à ça, à la relation, quoi, à nos capacités à être en relation. Je voulais dire bonne, mais c'est même pas bonne relation, mais à comprendre nos relations avec les autres, comment elles fonctionnent, la relation à soi-même aussi. D'ailleurs, je crois que c'est, vous l'aviez dit, hein, la relation à soi, aux autres et à l'environnement. C'est les trois axes.
C'est les trois dimensions pour nous qui sont essentielles dans le processus d'innovation. Voilà. Le processus à soi, aux autres et à son écosystème.
Et je finirai avec ça, mais c'est, ça paraît être un chantier immense. Où on en est ? Est-ce que on peut avancer rapidement sur ces sujets ou est-ce que c'est l'étude de toute une vie ? Parce que vous, c'est votre centre, c'est votre focus principal. Mais quelqu'un qui va faire un atelier par-ci, un atelier par-là, est-ce qu'il peut repartir avec des choses vraiment qui vont lui faire des grands pas ?
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait faire au moins des petits pas. Aujourd'hui, je pense que c'est bien un domaine où il faut avoir énormément d'humilité, c'est dans l'accompagnement des équipes. Et je pense que si déjà on arrive à faire, et ça c'est pour nous en tout cas une règle d'or, cette notion d'indicateur de réussite à chaque atelier, à chaque accompagnement d'équipe, c'est comment aujourd'hui on va pouvoir faire le premier pas. Et à la fin de chaque session que l'on a, en tout cas, c'est d'avoir identifié ce premier pas et surtout ce premier pas collectif et d'aller au même rythme. Parce que ce qui est important aussi dans une transformation, c'est quelle est la vitesse et le rythme, le tempo, j'allais dire, du collectif pour accompagner cette transformation.
Merci beaucoup. Je vous propose de passer au questionnaire, sauf si vous avez vraiment quelque chose d'important qu'on n'aurait pas dit.
Je vous remercie, c'est parfait. Je vous écoute pour les questions.
Ok, c'est parti. On est sur la ligne de départ et la première question, c'est... En fait, j'aimerais que vous me racontiez une histoire de votre vie personnelle ou professionnelle, de quelque chose qui aurait pu être vu comme un échec et qui vous a énormément appris.
Mais c'est quasiment quotidiennement, donc je ne sais pas que je suis en train de me défiler à votre question, hein, ne pensez pas ça. Mais c'est...
Non, ne tentez pas ça parce que je suis terrible, je vous rattraperai.
Mais c'est ce que j'aime, c'est l'opiniâtreté fait partie également, hein, de c'est important, c'est presque un de nos principes aussi. Oui, la première fois où on a présenté notre offre d'Alom, il y a 3 ans, parce qu'on a créé notre société. En fait, on avait présenté en fait à nos premiers clients notre offre, et puis on se rendait compte que ça marchait pas parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop vaste, et en fait on s'est dit bon ben c'est lui qui comprend rien, donc on en a essayé un deuxième client, un troisième client, et puis les 3 premiers mois on était un peu surpris parce que ça marchait pas, en nous disant toujours vous êtes sympa, vous avez une bonne gueule, on aimerait bien, mais en fait revenez nous voir, hein. Donc je dis c'est pas possible, ils sont tous cons ou c'est moi qui et en fait aujourd'hui je les remercie, même à certains je leur ai envoyé des chocolats. Parce que, en fait, grâce à eux, ça nous a permis à la fois de comprendre qu'aujourd'hui, ben, quelle était notre valeur ajoutée et où on avait vraiment une expertise pour pouvoir accompagner les équipes dans leur transformation. Et ça nous a donné aussi beaucoup d'humilité. Parce que moi qui sortais d'une DRH de 12 000 collaborateurs, qui pensait avoir des solutions et des outils, et on se rend compte qu'en fait, chaque écosystème est différent. Donc ça nous a poussé à la fois à retravailler notre offre, à avoir à la fois de beaucoup plus de modestie et puis surtout à la fois de plus écouter le client, le besoin du client, et surtout ne pas essayer de leur vendre une solution toute faite. Alors ça nous a donné beaucoup plus de temps, mais aujourd'hui une grande fierté, c'est que 100% de nos premiers clients sont les clients avec qui on continue de travailler aujourd'hui, et c'est pour ça que pour nous ce sont plus des partenaires d'aventure que des clients. Donc cette notion aussi de compréhension d'un écosystème social, économique, culturel, ça nous permet de mieux les accompagner dans leur transformation. Donc voilà ce que je voulais vous partager.
Deuxième question. Oui. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui vous a particulièrement fait avancer personnellement ou professionnellement ? Je suppose que vous avez suivi des formations vu votre parcours.
Oui, il y a eu des formations, mais enfin, pour moi, c'est peut-être pas une technique. Enfin, c'est plutôt une manière d'être, hein, si vous me permettez. C'est plutôt, moi, je me rends compte ce qui m'a permis aujourd'hui d'être impactant et d'accompagner en cohérence, en congruence les équipes. C'est avant tout être soi-même. C'est être soi-même. De l'authenticité. L'authenticité. Et aussi authenticité et accepter sa vulnérabilité. Pour moi, ce sont les deux clés qui permettent de créer de la confiance, d'apprendre à coopérer, d'avoir une dynamique d'entraîner aussi les équipes. Et pour moi, c'est essentiel. Oui, être soi-même et être authentique. Ouais.
Quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Alors pour moi, la qualité première, c'est avant tout le courage. Ouais, le courage, c'est cette capacité en tout cas à dire les choses. Et moi, je prendrais une phrase qui dit que mes oui soient mes oui, que mes non soient mes non, le reste relève du diable. Donc en fait, un manager, c'est avant tout quelqu'un qui a cette capacité en tout cas à prendre des décisions et à assumer ces décisions et à fixer un cap. Ce n'est pas un béni oui-oui et quelqu'un qui est là simplement pour faire plaisir à tout le monde. Donc c'est vraiment cette capacité à avoir du courage pour traiter d'une manière, accompagner d'une manière équitable l'ensemble de ses équipes.
Je crois que c'est la première fois qu'on me cite le courage. Question suivante, est-ce qu'il y a un livre que vous conseillerez à la lecture ? En dehors du vôtre, bien sûr. justement, peut-être pour devenir un meilleur manager.
Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar et puis un autre, si vous m'autorisez deux.
Alors d'abord, les mémoires d'Adrien. Pourquoi ce livre ?
Parce qu'à l'intérieur, on y trouve plus que des clés du management. C'est à la fois un art de vivre et une capacité d'être en relation et à se laisser surprendre à la fois dans son quotidien. C'est un livre d'une grande puissance et d'un esthétisme. Et parce que avant tout, la relation, et pour revenir l'art de la relation, il y a la notion d'esthétique. On n'en a pas parlé pendant l'interview et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc les mémoires d'Adrien aussi pour l'esthétisme de la relation et le courage, en fait, au nom du livre.
Et votre deuxième livre ?
Ma deuxième livre, c'est peut-être pour m'accompagner sur quelle est ma devise. Hein. C'est un livre de Kennedy Douglas qui s'appelle « À la poursuite du bonheur ». Et ce livre, en fait, sa dernière phrase finit par « Vivre, c'est essayer ». Et là, je vous partageais ma devise. Voilà, « Vivre, c'est essayer ».
Ah, ça tombe bien parce que c'est la dernière question. Votre devise ou une citation, voilà. « Vivre, c'est essayer ».
Voilà, exactement. Parce que tant que si je n'essaye plus, c'est que je suis mort. Donc pour moi, il n'y a qu'un moteur. « Vivre, c'est essayer ». Donc quotidiennement, c'est tant que je suis vivant, c'est qu'est-ce que j'essaye ? « Vivre, virgule, c'est essayer ». La dernière phrase du livre de Kennedy Douglas, « À la poursuite du bonheur ».
Magnifique. Je mettrai citation, livre, votre livre et où on peut vous joindre dans l'article du blog sur moodstep.com, sur iTunes. Où est-ce qu'on peut vous joindre justement ? Où est-ce qu'il faut aller vous chercher sur Internet ? Peut-être vous avez un site Internet ou vous préférez LinkedIn, je ne sais pas.
Alors il y a LinkedIn, hein, mon profil LinkedIn ou sinon découvrir sur www.odalhomme.com ou www.innovationcommando.org. Et puis vous trouvez aussi le plus simple, ceux qui veulent, c'est qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Parce que moi aussi, je ne suis pas un adepte non plus du virtuel, donc je leur invite au 07 82 02 96 97. Voilà, 07 82.
Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire ?
Je me rends pas
compte. Vous allez être enseveli sous les appels. Vous ne vous rendez pas compte de l'auditoire que nous avons aujourd'hui. C'est énorme, c'est immense.
Mais je n'ai aucun
doute. Mais c'est vrai que vous êtes audacieux.
Écoutez, l'audace fait partie en tout cas d'un des principes également, comme le courage de l'innovation. Voilà.
Bon, bah, comme quoi, tout se recoupe, tout se reboucle.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
De m'avoir et d'avoir donné de votre temps à tous ceux qui vont écouter ce podcast. J'aime bien finir avec. J'ai une baguette magique.
Oui, Johanna.
En plus, on entend. On entend les cloches de l'église, j'habite en face de l'église.
C'est un gong.
Ah oui, c'est le gong de fin du podcast. Ah, ça, celle-là, elle est drôle. Et donc, c'est le gong pour dire, voilà, j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que, voilà, je peux accomplir ce que vous voulez, je peux vous offrir ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir?
Eh bien, me permettre quotidiennement d'essayer de nouvelles choses. Et donc, ça sera de continuer de vivre.
Et d'essayer, donc.
Donc, c'est bon. Merci beaucoup, Johanna.
Et voilà, c'est déjà la fin du 43e épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour le 44e épisode. Vous pouvez trouver ce podcast sur iTunes, sur le blog Moodstep et sur SoundCloud. N'hésitez pas à me dire s'il y a des plateformes qui sont plus faciles pour vous pour vous abonner et suivre les interviews. J'irai potasser, regarder ce qui est possible. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans 2 semaines.